c'est le temps de vous parler de RangeBrand.ca. Yann et Frank, on est super fiers. RangeBrand a renouvelé sa publicité avec nous autres. Fait que là, on renouvelle un peu ce qu'on a à dire sur eux. C'est le brand country numéro un au Canada, mais c'est surtout une business québécoise. Comme disait notre bon premier ministre, c'est important là, d'acheter des affaires québécoises. Là. Fait que si tu veux avoir ton linge RangeBrand, c'est pas compliqué. RangeBrand.ca, il y a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, des montres, il y a plein de stocks. Puis tu utilises le code promo Yann10. Yann avec un I, 10, ça va te donner 10% de rabais sur tes achats. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. C'est mondial. Il y a des manifs partout sur les campus universitaires. C'est un phénomène mondial. Puis aussi, c'est vraiment un podcast international aujourd'hui. On va parler de murailles de Chine entre Dubé, pas entre Dubé, mais entre la Top Gun et son mari. Mais non, mais on fait le tour du monde aujourd'hui.
Ouais, on fait le tour du monde aujourd'hui.
C'est drôle pareil parce que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on reçoive le commentaire que on est un comment on dit ça, on est provincialiste ou régionaliste, je sais pas trop. Là, on parle de sujets locaux. Là, t'es comme ben c'est parce que.
C'est quand vous insultez Justin Trudeau comme vous insultez PSPP, là?
Ouais. On a juste à peu près 150 podcasts sur Trudeau. Là. Mais. C'est drôle pareil parce que on parle de. Comment je dirais ça? Nous autres, on parle de plein de sujets de politique américaine, puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui nous accuse d'être provincialistes qui sont en train de se pommer sur Jean-Pierre Ferland. Tu sais, je sais pas là, mais. J'ai rien contre Jean-Pierre.
Ça, c'est le boomer Jean-Pierre, ça?
Ouais, mais le pire, c'est que je pensais que c'était juste échappé hier, mais Richard Martineau, il a écrit un article dans le Journal de Montréal qui s'appelle genre Vive les boomers, ou peut-être tu peux, je vais te retrouver ça, là. c'est pas des jokes que je raconte là.
Mais là, il y avait quel âge, le monsieur Fernand? Il était pas jeune.
Merci. Ça s'appelle Merci Boomer.
OK. Okay.
Merci Boomer, le pont qui nous relie au passé est tombé. Et là, il écrit là-dedans, écoutez bien ça. Il écrit, bon, il parle de Jean Lapointe. Il parle de Brian Mulroney, Jean-Pierre Ferland. Là, tu te dis, ben, c'est parce que.
Les boomers, ils sont nés, eux autres, après la guerre de 1945.
Ben, c'est ça. C'est qu'un boomer, c'est quelqu'un qui est né après 1945. Là.
C'est parce qu'il est pas mal né en 1934, Jean-Pierre Ferland.
Ah, puis Jean Lapointe, d'après moi, il Jean Lapointe, il est né en 1935. Là. Puis, okay. Brian Mulroney, il est né quand, lui, Brian Mulroney? Lui est né, non pas Maloney, Mulroney. Parce que Brian Maloney, ça a l'air, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur de hockey. Lui, il est né en 39.
OK.
Il est né en 39. Bon, il parle de qui d'autre dans son truc? Deschamps, Yvon Deschamps. Il est né quand, lui, Yvon Deschamps? D'après moi, c'est pas un boomer, Yvon Deschamps.
Il est un peu plus jeune que les autres, lui. 1935.
1935, ah non, lui non plus. C'est parce que Richard, toi, t'es un boomer. Ben oui, mais Richard Martineau est un. C'est pas une insulte, là. C'est un constat. Il a juste pas compris que. Lui, il parle de la génération tranquille en disant hey, les boomers, c'était tout du monde extraordinaire. Jean-Pierre Ferland, Brian Mulroney, Gilles. Il a même nommé.
1961, Richard Martineau.
Il a même nommé. Comment il s'appelle? Gilles Vigneault. Il a dit Gilles Vigneault, c'est un boomer. Voyons. Chris Gilles Vigneault, il est né genre en 1928. Ouais, c'est pas un boomer, pas en tout. La Deuxième Guerre mondiale.
C'est clair aussi. Hey, t'écris une drette dessus. 1928, Frank. Tu connais ton.
Oh oui, je connais mon Québec. Là.
Félix Leclerc, je pense, l'avait nommé.
Félix Leclerc, il est né genre en 1917 ou un truc de même.
T'as un peu, là. 1914.
1914. Il nommait ces gens-là hier. Là, t'es là. C'est parce que ça, là, c'est... On est... Non seulement c'est
les
pas...
Les idoles boomers, des boomers.
Ben, voyons, mais de quoi il parle, ce gars-là? C'est pas des jokes, ce que je vous dis là. Il y a vraiment un article le matin dans le Journal de Montréal. Merci, boomer, et toutes les gens qui nomment dedans, c'est pas des boomers.
Ils sont vieux, mais c'est pas des boomers.
C'est parce que...
Richard... Mais c'est les idoles... Les gens qu'il a nommés, c'est les idoles des boomers.
Ah, ben là, peut-être.
Mais ça, c'est pas pareil, là.
Mais c'est pas pareil.
C'est tu peux pas me dire. Mais tu peux pas me dire... la génération d'avant qui était hot. T'es pas vous.
Ben non, mais tu peux pas me dire, hey, la génération des boomers sont-ils extraordinaires? Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault, Brian Mulroney, Elvis Presley. C'était tout du monde vraiment hot, ça, là. Ouais, c'est parce que c'est pas des boomers. C'est, il y a juste... Boomer, en plus, c'est pas compliqué à comprendre. Boomer, né après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a eu un boom de naissance. Les hommes qui étaient à la guerre sont revenus puis ils avaient faim. Ils ont mis Bobonne enceinte. C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que ça s'appelle la génération des boomers. Si t'es né en 1935, avant... La Deuxième Guerre mondiale, tu peux pas être un boomer. Il n'y a pas eu de guerre encore.
Ah, Frank, incroyable.
Ben, écoute, des fois, on...
Petites erreurs.
Oh, ouais. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'il a fait une apparition à télé hier où il a dit ça, puis il l'a répété dans un texte. Fait que ça m'a fait rire. T'sais. C'est OK, Jean-Pierre Ferland, c'est un boomer. Ben, si ça... À moins qu'ils utilisent juste ce mot-là comme synonyme de vieux.
Ouais, ça marche pas. Hey, parce que, tu sais, je fais du conseil financier, fait que j'ai évidemment des clients dans la génération du baby boom, mais j'ai des clients aussi dans l'autre génération, celle qui est plus vieille.
Mm-hmm.
Et honnêtement, ils sont tellement différents. Parce que c'est des générations relativement uniformes. Hein. Tu sais, quand t'arrives, tu t'en vas dans les X, les Y, c'est là que tout éclate. T'as toutes sortes de monde, t'as toutes sortes de goûts, ouais. T'as toutes sortes de styles, t'as toutes sortes de philosophies. Mais la génération du baby-boom, qui est probablement la dernière génération relativement uniforme, puis la génération avant elle était encore plus uniforme, je pense. C'est vraiment capoté. Parce que dans le baby-boomer, t'as comme les fonctionnaires et ceux qui étaient jaloux de Paul Light, là, grosso modo. Là. On généralise, mais vous comprenez la game, là. Le fonctionnaire boomer, c'est un spécial, puis celui qui a toujours été jaloux de ne pas être fonctionnaire, lui, il a une autre façon de penser. Mais la génération d'avant, c'est des gens hyper conservateurs.
Mm.
Hyper conservateurs. C'est des gens qui ont peur de manquer d'argent.
Ouais.
Je parle au niveau financier parce que c'est là que je l'en côtoie le plus. Là, mais c'est vraiment des gens qui ont peur de manquer d'argent.
Ben parce que souvent, ils en ont manqué.
Ils en ont manqué. Ils sont à 85, 88, 91 ans, puis ils continuent d'accumuler d'argent. Ils ont de plus en plus de placements à chaque année. Ils ne décaissent jamais. Les boomers, plusieurs n'ont pas d'argent de côté, parce que plusieurs ont travaillé dans la fonction publique. Et ceux qui ont travaillé dans la fonction publique, une grosse partie prennent leur retraite avec une hypothèque, avec une grosse dette.
Mm.
Puis ils vivent bien avec. Puis c'est une mentalité un peu plus, on généralise, pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a beaucoup plus de mentalité après moi le déluge. C'est, oh, ben oui. Ils ne veulent pas laisser d'argent à leurs héritiers nécessairement, tout ça, du payer leurs études qui s'arrangent. C'est un peu plus comme ça. La génération d'avant eux autres, là, c'est comme l'héritage, là, tu dis « ouais, mais vous avez besoin de soins, vous pouvez dépenser un peu plus, vous pouvez avoir un budget de 500$ par mois pour venir vous aider avec la bouffe ou le nettoyage, tout ça. Ouais, mais là, je vais en laisser moins d'argent à mes enfants après, tout ça. Non, mais là, c'est vous qui comptez. » Ça ressemble plus à ça, des discussions avec cette génération-là.
Mm-hmm.
Avec la génération boomer, c'est pas pareil pantoute, là. Puis c'est des généralités. Calmez-vous, là, ceux-là qui sont en train d'écrire plein de commentaires de haine, là. C'est des généralités, OK?
Ah oui.
mais ils sont pas pareils. Ces deux générations-là sont zéro pareils. Je veux dire, de voir Martineau les mélanger, je fais, man, Tu parles-tu à du monde, des fois, en dehors de ta vie sociale, de petits doigts en l'air qui boivent souvent et c'était avec des animateurs télé? Là.
Ouais, puis ça prend 2 secondes à trouver sur Google. Ouais, ouais. C'était juste à marquer « Génération Boomer ». Tu vas savoir quand ça commence, quand ça finit, sacrément. Pas bien, bien dur. Là. Écoute, comme tantôt, tu as fait le prélude en disant « c'est mondial », tu fais dire comme l'inflation, parce que c'est ça qu'on nous disait, c'est comme un phénomène mondial. Donc, c'est des images qu'on voit un petit peu partout. Ils ont un point en commun, hein, tout le monde porte un masque COVID.
Oui, 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 ils ont peur des virus, eux autres.
Oui, d'ailleurs, c'est très drôle parce que hier, donc l'article, ça c'est un article du Figaro qui mentionne qu'il y a des manifestations là, sur des campus. Ça se passe essentiellement sur les campus, hein, dans bien des villes d'Europe, donc à Rennes, à Saint-Étienne, à Menton. À Paris, il y en a aussi. Je pourrais vous mettre 52 articles. Là. Si vous faites une revue de presse, vous allez trouver. C'est un peu comme ça partout. Et il y a toujours
juste le même des Français qui pourraient appeler une ville Menton, pareil.
Oh, oui. Et tu as toujours le même setup, les mêmes slogans, les mêmes affaires, puis tout le monde a un masque COVID dans la face. Puis là, hier, je la connais, la réponse de pourquoi ils portent ça. Mais j'aime ça poser des questions rhétoriques pour voir ce que les gens me répondent. Et il y a un gars, parce que j'ai dit que j'ai mis une photo des manifestations à McGill. Puis tu vois qu'ils ont tous des masques d'en face. Toutes les N95, les affaires. Du coup, non, Chris, ce qu'ils font dehors avec des masques en 2024, ça va, là? Vous sautez sur le crank. Puis il y a un gars qui me répond en dessous, c'est pour contourner la loi qui dit que t'as pas le droit de manifester avec un foulard ou je sais pas.
Ouais, on l'a deviné.
Ouais, mais j'étais comme, OK, puis c'est quoi cette loi? La loi québécoise, elle s'applique en France, en Allemagne puis aux États-Unis? Voyons, qu'est-ce que vous racontez là, vous autres? C'est juste que c'est une mouvance que tout le monde s'imite puis qu'ils font ça parce qu'ils veulent pas se faire voir pour les opinions qu'ils mettent de l'avant.
Parce que, tu sais, on parlait hier dans le podcast du petit autoritaire en nous. Là. Le petit autoritaire.
Ben oui.
Puis, je sais pas toi, là, mais quand je vois ça, c'est campus universitaire, bien, je me dis qu'il y a plusieurs étudiants étrangers dans ces manifestations-là. Là. C'est quoi qui te dit ton petit autoritaire en toi, toi?
Oh, moi, mon petit autoritaire, il me dit « tu décalisses ».
Ben, écoute...
Excusez-moi, là, mais allez étudier. Demain matin, là, vous avez une bourse ou vous avez une opportunité pour aller étudier à Paris ou à Berlin ou à Londres. Là. C'est pas un droit que vous avez. Ça, c'est un privilège. Il y a une université étrangère qui vous accueille. Vous venez faire vos études ici. Est-ce que vous venez pour étudier ou vous venez pour être un petit militant sur les campus puis en faire des barricades puis écœurer des étudiants juifs? Là? Si c'est ça, tu prends tes clics puis tes claques, tu rembarques dans ton avion puis tu viens d'où ce que tu arrives. À un moment donné, là, sacrement, là, ça commence à faire. Là. C'est comme si tu engages quelqu'un puis tu te dis « Toi, je vais t'engager, puis ta job, là, c'est ça, c'est de surveiller l'entrée puis de prendre les appels qui rentrent. » Première affaire que tu sais, c'est que la personne a transformé le bureau en truc de pour militant anti-avortement. Là, tu vas dire « Ouais, là, pas vraiment pour ça que je t'avais engagé. » Ben, l'université, quand elle t'accepte, c'est pour venir étudier dans un programme, surtout les programmes d'étudiants étrangers. Là. C'est des ententes qu'il y a avec des universités des ententes bilatérales entre les pays puis tout ça. À un moment donné, là, c'est pas censé être des lieux de radicalité. Mais l'autre affaire en arrière de ça.
Est-ce qu'on est en train de dire vraiment que tous ces militants-là connaissent exactement la cause qu'ils défendent? Il y en a sûrement 2-3 leaders qui ont motivé tout le monde à faire ces manifs-là, puis qu'eux, ils savent pourquoi. Mais il y en a une crise de batch, là. C'est des slackers, là. Ils sont à l'université parce que papa puis maman payent. Puis papa puis maman vont payer tant et aussi longtemps qu'eux autres donnent l'impression qu'ils étudient quelque chose. Mais je veux dire, clairement, ils ont beaucoup de temps libre pour manifester comme ça, là.
Oh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps
pas beaucoup libre. De monde en ingénierie là-dedans avec une session complète puis des cours optionnels.
Ouais.
Il y a beaucoup de monde qui ont 2 ou 3 cours par semaine.
Puis tu sais, c'est fou aujourd'hui comment des mouvances peuvent se répandre mondialement en très peu de temps parce que tout est interconnecté, tout est interrelié. C'est facile d'avoir des communications avec des gens qui sont en France, qui sont en Allemagne. Fait que, tu sais, les trucs se passent de place en place.
Ils ont signé.
Ça va très, très vite. Puis, tu sais, il y a plusieurs années de ça, on entendait toujours la phrase, ouais, tu sais, la cancel culture, le wokisme, tout ça, c'est directement importé de certains campus universitaires, notamment en Californie, notamment à New York, notamment dans le coin de Boston. Ça vient de là. Puis c'est en train de devenir chez nous, puis ça arrive en France, puis ça arrive au Québec, puis ça arrive au Canada anglais. Puis on suivait ça en se disant, ben c'est quoi en gros? Bah, c'est du monde qui... les drapeaux arc-en-ciel, puis la patate. Ouais,
des futurs flippés de boulettes. Là.
Puis là, sauf que là, c'est vraiment la culture war, ce qu'on appelle la culture war aux États-Unis, là, la guerre des cultures là, qui se passe sur les campus. Là. C'est juste qu'ici, il n'y a pas vraiment de guerre parce qu'il n'y en a pas de conservateurs, ces campus. Là. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils sont, là, mais on les a jamais entendus. Il n'y a pas d'affrontement. Fait que ça laisse toute la place à ces gens-là. Là. Mais moi, ça fait des années que je suis des gars comme le gars de Campus Reform ou encore des Shapiro, tout ça, qui vont dans des campus aux États-Unis. Puis si tu vois que c'est une zone de guerre. Là. C'est les gens sont montés les uns contre les autres, puis se capoter ben raide. Et il y a un texte qui a été publié dans la Gazette. Okay, je vous présente le portrait parce que je pense que c'est intéressant de le lire. Ça a été écrit par une dame qui s'appelle Shiley Ruther, professeure au Department of Sociology and Anthropology à l'Université Concordia. Fait qu'on peut se douter que c'est pas vraiment une dame... d'après moi, elle ne doit pas voter pour Liev, cette madame-là. On va dire ça de même. Je la connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle raconte bien, mais je regarde le profil, je regarde le département, je regarde l'université. Je me dis, bon, ça doit être quelqu'un au maximum de centre. Elle doit être très modérée dans ses affaires. Et elle a écrit un texte qui s'appelle « I gave a lecture on academic freedom ». My student walk out. OK? Donc, je le traduis pour les biens de la conversation. Là, ça va être plus facile. Elle écrit, je vais juste actualiser la page, ça va être plus facile pour faire la lecture en français de ce qu'elle écrit. Là. Mais c'est quand même relativement inquiétant, pareil. Là. Elle écrit. Elle dit, donc je répète le titre, mais en français, j'ai donné une conférence sur la liberté. J'ai fait une conférence, pas une bonne traduction, mais j'ai fait un exposé sur la liberté académique. Mes élèves sont sortis.
C'est capoté, ça, non?
Et là, elle dit...
C'est l'extrême droite, ça, non?
Oui, oui. Elle a dit, j'ai récemment donné une conférence sur la liberté académique à mes étudiants en sociologie spécialisée pour clôturer leur symposium de recherche. La liberté académique protège les universitaires, permettant de pouvoir s'épanouir sans entrave, tout en respectant la neutralité institutionnelle et permet des points de vue divers et garantit que les universitaires peuvent exercer ce droit. Seuls les chercheurs individuels jouissent de la liberté académique et non les institutions. En cette période d'acrimonie extrême au milieu des guerres culturelles et des tensions accrues sur les campus liées au conflit Israël-Hamas, la liberté académique est devenue vulnérable. À l'instar de l'Association canadienne des professeurs et des professeurs d'université, je crois aussi que les restrictions à la liberté académique motivées par des considérations politiques ne doivent jamais être tolérées. Ça fait un peu le
pas mal le podcast d'hier. Hein?
Ça fait un peu le pont avec ce qu'on disait hier. T'sais, ça va au-delà de vaccin, pas vaccin, droite, gauche. Ça va au-delà de est-ce qu'un chercheur est libre de dire ce qu'il veut, puis de penser ce qu'il veut, puis de défendre les opinions qu'il veut dans le cadre de ses fonctions, ou est-ce qu'il doit craindre en permanence de se faire écœurer par des petits crises de militants?
T'as apporté une nuance hier qui est importante. Si, par exemple, Patrick Provost se fait mettre dehors parce qu'il exprime son opinion à l'extérieur de l'université, dans des médias, peu importe, ça n'a pas lieu d'être. Si Patrick Provost, par contre, falsifie des résultats de recherche pour aller dans la direction de son militantisme, c'est une autre affaire.
C'est ça.
Pis... c'est pas qui s'est pas arrivé dans le cas de Patrick Provost, là, soyons bien clairs. Là.
Non, c'est ça. Mais en fait, ça fait le pont avec un podcast qu'on avait fait sur le livre de Nathalie Heinich, la Française, qui avait écrit justement sur qu'est-ce que le militantisme fait à la recherche. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est un professeur en dehors de ses heures de cours, dans la vie publique, peut bien prendre les positions qu'il veut. Mais dans le contexte de la publication revue par les pairs, où tu dois évaluer des articles sur la base de la véracité de ce qui est écrit, puis tu commences soit à accepter des affaires sloppy pour des raisons idéologiques ou à refuser des choses pour les mêmes raisons, ben là, tu contreviens gravement à ce que c'est que ça devrait être le travail de professeur. Puis là, ça peut devenir un motif de congédiement.
Exactement. Je pense que c'est la nuance qu'on n'a pas apportée dans le podcast hier.
Oui, parce que ça s'est passé assez vite, puis on n'y a pas vraiment pensé sur le coup. Donc, je continue. Elle dit « J'ai souligné le rôle crucial des universités en tant que lieu de dialogue et de débat ouvert dans les sociétés démocratiques. J'ai parlé avec soin pour que mes paroles soient comme prévu, non pas une réprimande, mais comme une invitation à un échange constructif. » La fille est soft, là. T'sais, elle est comme, elle est vraiment soft. Elle est comme,
pas de l'extrême droite, là.
Non, non, non. Les récentes manifestations sur le campus m'ont fait peur. Et cette classe était tendue depuis le 7 octobre. Mettre de l'huile sur le feu était la dernière chose que je voulais. Mais malgré mes intentions, rien ne m'a préparé à ce qui a suivi. Alors que je commençais à parler, l'attitude des étudiants a commencé à devenir hostile. J'offensais leur sensibilité politique. J'ai souligné comment la liberté académique avait permis leur symposium, qui couvrait un large éventail de sujets sans restriction. Je leur ai fait imaginer des manifestants les empêchant de parler, ce qui s'est produit lorsque deux universitaires israéliens ont visité notre campus. Et j'ai rejeté l'idée selon laquelle la répression académique ne pouvait jamais avoir lieu ici. Ces manifestations ont prouvé que c'était possible et c'est effectivement le cas. Bref, je risquais de devenir la cible du boycott, du désinvestissement et des sanctions. Donc, il y a un nouvel genre d'acronyme. Là. Après EDI, eux autres, dans le langage, ils appellent ça BDS. Donc, boycott, désinvestissement et sanctions.
Mais ça, c'est la même affaire que les chaussures, là, vraiment plusieurs années avec Amir Kadir puis Montréal,
même,
tout ça.
C'est le même genre d'affaires. On est c'est, encore à même.
On est revenu là.
On est revenu là. Le BDS implique, entre autres choses, un boycott universitaire contre Israël, une restriction claire de la liberté académique en empêchant les échanges universitaires. Le mouvement cible également les non-israéliens ouvertement opposés au BDS et fait même taire les universitaires palestiniens ou israéliens. J'ai contesté l'affirmation selon laquelle le BDS cible uniquement les institutions, car ce sont clairement les universitaires individuels qui en sont les destinataires. J'ai également rappelé aux étudiants que nous, sociologues, savons mieux que quiconque, comme l'a dit l'auteur Carrie Nelson, que les institutions ne sont pas composées de bâtiments vides, mais sont plutôt des entreprises vivantes composées des personnes qui y travaillent.
C'est vrai.
J'ai soutenu que la réponse au discours avec lequel on est en désaccord n'est pas la censure ou l'annulation, mais le dialogue, le discours. Le dialogue est la façon dont vous changez les cœurs et les esprits, ai-je dit. Lorsque certains sont la cible d'un boycott universitaire, la liberté d'expression de chacun n'est finalement pas garantie. Mes étudiants n'en avaient rien à faire et sont sortis en colère. Un collègue a plaisanté.
Des enfants rois, là.
Un collègue a plaisanté. Vous avez parlé du boycott universitaire et maintenant vous êtes boycotté. Il semble que nous ayons réussi à enseigner l'esprit critique à ces étudiants, comme en témoigne leur présentation. Mais nous n'avons pas réussi à leur apprendre à penser avec nuance et complexité sans adopter des schémas binaires rigides où tout est noir ou blanc, mais jamais, jamais gris.
J'ai leur déclaration, madame-là.
Oui, c'est très solide, là, pour vrai. Puis c'est dans une section perdue de la Gazette que personne lit au Québec, là. Mais pour vrai, c'est un bijou, là, sa déclaration. Leur déclaration silencieuse et colérique, vous êtes soit avec nous, soit contre nous, m'a paru hypocrite et profondément triste. Cette génération d'étudiants méprise la pensée au profit de l'intersectionnalité. Pourtant, ils étaient là, faisant exactement ce qu'ils détestent. Ils ne pouvaient pas imaginer tenir plusieurs positions simultanément, comme « on peut être contre cette guerre avec compassion pour les Palestiniens et pour les otages israéliens et autres victimes du 7 octobre », avec des chambres d'écho aux extrémités à droite ou à gauche, trop d'étudiants sont extrêmement intolérants à l'idée d'entendre des points de vue différents des leurs. Avec une politique aussi divisée, cela est prévisible, mais nous, les universitaires, devons apprendre aux étudiants à être meilleurs. En mettant fin au boycott universitaire, qui portent fondamentalement atteinte à la liberté académique et sont inconciliables avec la mission de l'université. Je voulais que mes étudiants comprennent que nous ne devons pas faire taire les chercheurs avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et j'achève, il reste quelques lignes. Même ceux dont les libertés, même ceux dont les recherches nous mettent mal à l'aise. Refuser à un seul universitaire sa liberté académique représente, en fin de compte, un déni pour tous les universitaires, une menace pour la démocratie, et nous ne pouvons pas tolérer cela. Sans liberté académique, la polarisation que nous observons sur les campus et au-delà se poursuivra à un rythme soutenu. Shaili Reuter, professeure de sociologie, conseillère spécialisée et vice-présidente de l'Association des professeurs de l'Université de Concordia.
C'est très bon. C'est très bon.
À un moment donné, il va falloir qu'il y en ait d'autres qui sortent.
Puis il va falloir qu'il naît en français aussi.
Ça aussi, c'est l'autre affaire. Parce que là, pour l'instant, là, c'est qui on a entendu pour l'instant dénoncer ça, là? Dans les universitaires québécois. Restons juste là-dedans.
Francophone.
Cette dame-là, Gad Saad. Ben là, Patrick Provost, of course, mais là, Patrick Provost, lui.
Il n'est plus là.
Ben ouais, puis je veux pas y faire de mauvais. Je veux pas y faire de procès d'intention, mais est-ce qu'il sort avec ce genre de discours-là s'il n'est pas lui-même visé par ça? Non, c'était pas son combat avant, puis là, je pense que.
Là, ça l'est.
Je pense qu'il se rend compte de ça parce qu'il en est individuellement victime. Mais tu sais, elle, ce qu'elle dit, c'est ben tous les professeurs sont au courant de ça. Là. Tout le monde voit bien que l'université est rendue un lieu. C'est pas drôle, là. Les universités sont rendues des lieux de radicalisation.
Puis, regarde à quoi ça ressemble, McGill. L'Université McGill annonce le démantèlement du camp pro-palestinien.
On dirait un camp de migrants, sacrément. C'est quoi cette affaire-là?
C'est une université, ça, là. Ils vont rentrer avec la police, là. Ils sont tannés. L'Université de McGill demande l'intervention des forces policières pour démanteler le camp pro-palestinien sur son campus. Là, il faut que ça arrête, là.
Ouais, puis si vous voulez, moi, j'ai pas de problème. OK, vous voulez manifester pour la Palestine, là. Mais Chris, allez-vous camper en avant du Parlement à Ottawa?
Ben oui. C'est quoi le rapport avec l'université? Mais encore là, si tu vas camper en avant du Parlement à Ottawa, c'est quoi qui est arrivé la dernière fois que c'est arrivé? Vous me le dire? Tu demandes si on fait geler le compte de banque, là?
Eh oui.
Oh, c'est du monde qui ont été emprisonnés? Je pense que oui. Non. Tamara Lynch est emprisonnée. Non?
Ouais, Tamara Lynch, est-ce qu'elle a utilisé des slogans génocidaires? Hein?
Je pense pas, moi. Je pense pas. Le deux poids, deux mesures, le monde sont écœurés. Là. On est écœurés en tabarnache du deux poids, deux mesures. On tolère des insignifiants. Gâtés pourris, enfants rois, qui font la même affaire que des adultes qui avaient perdu leur job pour vrai. Là. Puis eux autres, on les envoie en prison, on gèle le compte de banque, puis on déclenche la loi des mesures de guerre. Ah, la loi des mesures d'urgence, c'est vrai, on a changé de nom. Okay, voulez-vous rire de moi? Là?
Puis tu sais, tous ceux là, que quand on dit pas 100,8% de ce qu'ils veulent entendre, laissent des insultes puis des commentaires de marde, là. Réfléchissez à ce qu'elle a écrit dans son texte là, sur comment la vie puis les idées, là, c'est pas toujours blanc, noir, ça peut être gris souvent. Puis de temps en temps, puis entendre des opinions contraires aux nôtres, là, c'est normal, ça fait pas mal, ça finit même par faire du bien. À un moment donné, là, ça fait du bien d'entendre des propos inverses. C'est pour ça qu'on a invité Frédéric Bérard dans le podcast. C'est pour ça qu'on a invité Mathieu Boccoté. C'est pour ça qu'on a invité Gad Saad. C'est pour ça qu'on a reçu Philippe Couillard en entrevue. C'est qu'à un moment donné, si on reste tout le temps dans une espèce de cocon fermé là, où tout le monde dit les mêmes affaires, tout le monde pense la même affaire, puis les autres, c'est des mécréants, ben ça finit comme ce qu'on voit sur les campus. Là. Ça finit que ben, t'es en crise après le gouvernement israélien de Netanyahou, puis tu t'envoies écœurer des étudiants parce qu'ils sont juifs. Là. Tu sais, je veux dire, à quel bout dans ta tête tu trouves que ça a du bon sens faire un affaire de même? Moi, je vois pas où c'est raisonnable. En plus, ce sont des gens, souvent de gauche, qui nous ont pété les oreilles pendant des années avec la fameuse phrase « pas d'amalgame ». Ah, faut pas faire d'amalgame. Ah non, non, il y a un gars qui s'est fait sauter quelque part, on a retrouvé un Coran, tout ça. Il ne faut pas faire d'amalgame, ça n'a pas de lien. Tout ça n'a pas de lien. Chaque personne est différente. OK, parfait. Comment ça se fait que cette logique-là, elle vaut juste pour vous autres puis pas pour les autres? C'est à un moment donné, il faut y réfléchir à ça. Là.
Est-ce qu'on est rendu, Frank? Mettons qu'on cherche plus loin. Là. Est-ce qu'on est rendu une société tellement riche qu'on entretient beaucoup trop de monde? Tu sais, je veux dire, les petits manifestants masqués, là. Y a-tu un papa puis une maman en arrière de ça qui finance des études qui serviront à rien, là? Qui l'oblige pas à aller travailler d'un couche-tard ou d'un dépanneur ou dans un McDo parce que monsieur est aux études puis on veut pas nuire à ses études? Ou madame est aux études puis on veut pas nuire à ses études? On est rendu riche comme société, là. Beaucoup de jeunes qui sont entretenus par leurs parents. Nourris, logés, divertis.
Si tu es à l'université, puis tu as le temps et l'énergie d'être un militant professionnel qui est couché dans une tente en avant de l'université.
Tu serais plus utile ailleurs.
Peut-être que c'est parce que ton programme n'est pas assez exigeant. Peut-être c'est parce qu'on ne te charge pas assez cher.
Puis en même temps, on charge cher aux États-Unis, dans les universités. Fait que c'est pas une question d'argent. Ou en fait, les Américains sont tellement riches que c'est pas grave qu'ils chargent cher. Tu sais, les gens qui vont à Harvard, là, hey, c'est quoi, 45 000 là, là, je sais pas, dans ces zones-là?
Ouais, c'est cher.
C'est cher, là. C'est vraiment cher. Mais si papa est multimillionnaire, who cares?
Ah oui, who cares? C'est vrai, effectivement. Mais c'est sûr que faut pas se leurrer. Il y a pas juste des étudiants qui sont là, là. On parlait beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de professionnels de la militance là, qui sont là.
Il y a des gens qui travaillent pour des syndicats, qui travaillent pour des OBNL financés par le gouvernement, qui se ramassent là et qui ne sont pas sur le campus. Tu penses qu'on demande la carte étudiante à tout le monde, il y en a à moitié qui n'ont pas?
Ben, regarde qui était là hier, là. Sur le campus à McGill. Campement McGill contre le génocide en Palestine, jour 2, sur la page de Révolution communiste.
Mm-hmm.
Abat les impérialistes, construisons le Parti communiste révolutionnaire pour la révolution communiste mondiale. Intifada jusqu'à la victoire. Ça va, là? C'est...
Donc, les communistes de salon pèsent tous 140 livres.
Donc là, lui, il était sur les lieux là, à McGill, puis c'est la journée d'occupation.
Jour 2 des campements à McGill, comme vous pouvez voir, l'énergie est bonne malgré la pluie. Je pense qu'on peut dire, enfin, le mouvement d'occupation des campus est arrivé au Canada. Et il faut que ça se propage dans tous les campus, dans toutes les villes, partout au pays, partout dans le monde, en fait. Parce que qui est responsable pour le génocide des Palestiniens? Mais c'est l'impérialisme mondial. Ce système pour qui le profit, pour qui les intérêts géostratégiques, c'est plus important que les vies humaines, les grands impérialistes américains, canadiens, etc. C'est eux qui ont du sang sur les mains. Il faut organiser une révolution mondiale contre l'impérialisme et contre le capitalisme. Si vous êtes d'accord avec ça, venez avec nous dans les campements, mais venez aussi vous organiser avec les communistes. Le congrès de fondation du Parti communiste révolutionnaire, c'est le 18 mai prochain, ici à Montréal. Si ça vous intéresse, soyez...
Tu sais, le gars, il va recruter.
Ah oui.
Lui, il cherche des révoltés. Là. Puis ils ont mixé. Là, c'est...
Il cherche peut-être une tente pour coucher avec quelqu'un aussi.
Oui. Mais tu sais, c'est... comment je dirais ça? Et lui, en plus, eux autres sont géniaux. Là. Ils ont remplacé le... Ils ont mis une étoile... Eux autres, ils ont fait la fusion. Là, ça va être un genre de communisme musulman, en gros. Là. On va faire l'intifada mondiale. Ah oh ouais, ça va être beau. Là.
Mais ça, c'est pas des conspis, ça. C'est parce que l'impérialisme mondial, il y a quelqu'un qui est une marionnette en arrière de ça qui dirige tout.
Le
complot juif.
Oui, puis Justin Trudeau, c'est de sa faute.
C'est pas. Ils sont où les grandes personnes qui dénonçaient le grand conspirationnisme au juste? Parce que c'en est, ça. C'est une grande conspiration, le capitalisme, le corporatisme, l'impérialisme mondial.
Ouais, l'UNESCO va-tu faire une étude sur ce monde-là?
C'est qui l'empereur?
Hein? L'UNESCO va-tu faire une étude sur ce monde-là? Puis le gars, là, les décrypteurs de Radio-Canada.
Ouais.
avec la gang à Niquette et autres. Là.
Ouais, faire, mais, présentement, bon, les conspirationnistes, ils votent beaucoup pour Québec solidaire. Là.
Ben là, ça va se faire exprès. Le gars est d'une occupation sur un truc universitaire, mais t'es en train de dire que Justin Trudeau puis Biden ou je sais plus qui sont des impérialistes génocidaires, marionnettes. Excusez là, mais.
C'est qui l'empereur? On vit sous un ordre d'impérialisme mondial. C'est qui l'empereur? Il est où le jeu du César là-dedans? Là?
Mais c'est quoi la différence fondamentalement entre le gars durant le convoi qui disait que Justin Trudeau c'est un dictateur écrit sur son char, puis ce monde-là?
Il n'y a pas. C'est le même monde. C'est différent, mais c'est le même monde.
Mais ça revient à ce que la professeure écrit dans son texte. C'est le fléau de la culture war qu'on se fait embarquer dedans contre notre gré. Parce que puis là, t'es soit avec nous ou t'es contre nous. Là.
C'est binaire.
C'est binaire en crise, là. Puis hier, c'est drôle.
La seule différence, c'est que les médias ont une sensibilité romantique envers eux.
Absolument.
Oui, les médias, tu parles à un Patrick Lagacé, là, qui est dans quoi, quarantaine, Patrick, puis là, il regarde ça, il dit « Ah, une belle jeunesse. » C'est une belle jeunesse.
Oui, parce que ils sont nostalgiques de l'époque où ils étaient, ces gens-là. T'sais, on parlait hier là, du remake de 95. Là. On est en train d'essayer de caster tout le monde. PSPP va être Parizeau. Lui, qui va jouer le rôle de Mario Dumont, on ne le sait pas encore. Fait que là, tout le monde est en train de faire le casting là, pour le remake. T'sais, ça va être. Là, il essaie de faire Back to the Future 2. Fait que là, c'est le remake de 95. Mais là, eux autres, c'est ça aussi. Là.
Écoute, la bonne nouvelle, c'est que les vraies fois que le communisme a été implanté dans des pays, pour de vrai, ça a été fait avec la guerre, les armes et tout ça. Ce qui est le fun, c'est de voir ces frelus qui est là, qui sont à la tête des mouvements communistes. Ouais, ça veut dire qu'on est encore en sécurité.
Ben, c'est comme j'ai écrit hier sur Twitter, d'après moi, ça sera pas « From the river to the sea », ça va être « From the campus to mommy ». Ça risque plus d'être ça qu'autre chose. Que moi, le gars que je viens de voir, d'après moi, il est pas prêt de la Reconquista. D'après moi, la révolution mondiale où ce qu'on coupe la tête des impérialistes puis tout, ils sont pas prêts. Là. D'ailleurs, on peut-tu avoir une liste là, de gens là, que vous voulez éliminer et tout ça? Là. Il me semble qu'on serait dû. Là, pour
De quoi de solide?
De quoi de solide? Là. Parce que là, c'est toutes des affaires éthérées. Ah, les grands impérialistes, c'est qui ça? C'est qui ce monde-là?
Bill Gates.
Ouais, c'est ça, on retourne. C'est ça. Finalement, c'est toujours le même monde. On change juste de version.
Elon Musk.
Mais tu sais, est-ce que je suis surpris d'apprendre que des communistes s'entendent bien avec des islamistes autoritaires? T'sais, c'est entre autoritaires, on s'entend très bien, finalement. Là. Fait que. C'est ça. Écoutez, sur la partie Patreon, on a encore des audios à vous faire entendre, quelques trucs. On a aussi, c'est ça. Le grand Christian Dubé a annoncé sa cuvée Top Gun. Donc, il a mis ça sur son compte Twitter.
Fait que on n'en a même pas parlé.
Fait que son sirop Top Gun. Et on a eu ça aussi, le vrai nom de la Madame Top Gun. Là,
chez eux, elle est en train de construire la muraille de Chine.
Ouais, ben dans son lit, le lit est rendu séparé en deux. Elle est d'un bord, il y a un mur de briques, puis là, son mari est de l'autre bord. Parce que là, il y a comme des petits. Mais là, ça fait capoter plein de monde. Écoute, il y a un syndicaliste de Radio-Canada qui dit que ça va être quasiment le démantèlement du système.
Yes! Yes, sir!
Au moins, ces gens-là pouvaient avoir raison. C'est ça, là.
S'ils pouvaient avoir raison.